vous écoutez Radio France Internationale. Il est 20h30 à Kinshasa et Paris.
Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. La Cour d'appel de Paris confirme le non-lieu dans l'enquête sur l'armée française au Rwanda. La Cour rejette les accusations de complicité de génocide visant les forces françaises et leur éventuelle inaction lors des massacres de Bicêtre en 1994. Le discours à la nation du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Premier discours devant les deux chambres réunies en congrès depuis sa réélection en décembre 2023 pour un deuxième mandat. Discours aux allures de bilan de l'année 2024. Et puis une attaque djihadiste d'une rare intensité à Terra au Niger. Une centaine de soldats tués au cours de combats contre des djihadistes. Cet après-midi, des obsèques symboliques ont été organisées en hommage aux militaires tombés au cours de la fusillade. Après plusieurs procédures successives, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce mercredi le non-lieu général rendu en octobre 2023 dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française à Bicêtre au Rwanda en plein génocide des Tutsis. Dans cette affaire, trois associations et des rescapés du massacre de Bicêtre accusent l'opération turquoise et la France de complicité de génocide pour avoir, selon eux, sciemment abandonné des civils tutsis aux mains des tueurs hutus en juin 1994. Lisa Fabian était sur place pour RFI.
C'est un échec sur toute la ligne pour les parties civiles qui avaient fait appel de deux ordonnances dans cette affaire. Le non-lieu général clôt le dossier et empêche le renvoi devant la justice de plusieurs hauts gradés français, dont le général Lafourcade. Son avocat, maître Emmanuel Bidanda.
Cette décision met fin à près de 20 ans d'accusations particulièrement infamantes contre nos clients. On parle d'absence de charge. Il n'y a rien. Voilà. Le dossier, tout le monde le sait depuis des années, qu'il n'y a absolument rien dans ce dossier. On a essayé de manière tout à fait artificielle à le maintenir en vie contre toute évidence judiciaire. Donc c'est terminé.
Les parties civiles faisaient aussi appel contre le refus des juges de procéder à certains actes d'enquête. François Graner de l'association Survie.
Nous, on a toujours dit qu'il fallait interroger les responsables militaires à Paris, essentiellement le chef d'état-major de l'armée de l'époque, l'amiral Langsade, le conseiller militaire de Mitterrand. Il fallait les interroger pour pouvoir les renvoyer éventuellement aux assises. Et c'est cette démarche-là, ces actes-là, qui ont été demandés par les parties civiles, qui ont été systématiquement refusés par la justice. Et ça, pour nous, c'est un déni de justice.
L'association Survie indique qu'elle va poursuivre son combat judiciaire pour faire reconnaître les fautes de la France au Rwanda.
Compte rendu signé Lisa Fabian. L'adresse à la nation de Félix Tshisekedi ce mercredi en République démocratique du Congo. Premier discours du genre depuis sa réélection pour un second mandat fin 2023. Et pour l'occasion, les deux chambres étaient réunies en congrès. Discours aux accents de bilan de l'année 2024. À Kinshasa, on fait le point avec Pauline Azidi.
Une ambiance survoltée avant le discours du président qui a beaucoup parlé d'économie. Une croissance à 6%, une inflation à 11%. Il faut continuer à diversifier les ressources selon le chef de l'État qui a vanté les réalisations de son pays.
Des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, sans oublier la modernisation de nos aéroports. La République démocratique du Congo est un immense chantier, un pays en mouvement qui se construit un avenir radieux.
Félix Tshisekedi a évoqué ensuite la situation sécuritaire dans l'Est, rendant hommage aux militaires et leurs alliés, les milices Wazalendo, engagées contre les forces du M23 et du Rwanda, avant d'aborder le débat qui anime la classe politique congolaise, une éventuelle réforme constitutionnelle.
Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple.
Et le président de conclure, tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
RFI à Paris, il est 20h34. C'est l'attaque djihadiste la plus meurtrière perpétrée au Niger depuis 6 mois. Un assaut d'une rare intensité dans le département de Terra. Mardi, dans le village de Chatoumane, situé tout près de la frontière avec le Burkina Faso, une centaine de soldats nigériens sont morts au cours de combats contre des djihadistes. La fusillade a également coûté la vie à une cinquantaine de civils. Une situation qui a poussé l'état-major nigérien à se réunir en urgence ce matin. Et cet après-midi, les autorités ont organisé des obsèques symboliques en hommage aux militaires tombés dans cette attaque. Le récit de Sidi Yansané.
À défaut de donner un bilan officiel précis du nombre de soldats tués à Chatoumane, la hiérarchie militaire a rapatrié à Niamey les dépouilles de 10 hommes avant de les enterrer cet après-midi au carré des martyrs de la capitale, une manière symbolique de rendre hommage à l'ensemble des FDS tombés au combat la veille. Les affrontements ont eu lieu en plein milieu du marché bondé de cette localité du département de Terra. Les informations de RFI indiquent que des djihadistes à moto ont débarqué dans le village, bien plus nombreux que les militaires. Ils les ont pris en étau dans le marché, une opération visiblement planifiée. Selon des sources sécuritaires et médicales, au moins 90 soldats sont tués. La fusillade a aussi causé la mort d'une cinquantaine de civils. Le massacre n'a pas été revendiqué, mais la région de Tillabéri se situe dans la zone des trois frontières avec le Burkina Faso et le Mali, où sévit régulièrement l'État islamique dans le Grand Sahara. L'attaque de Chatoumane est la plus meurtrière depuis celle du camp de Boni il y a 6 mois dans la même zone.
Sidi Yansané, puis une opération de l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner à la frontière de la Mauritanie, très précisément à Lagdaf, près de Fassala, dans une zone où le tracé de la frontière n'est pas évident. Une quinzaine d'hommes, majoritairement des Mauritaniens, ont été arrêtés. Pour rappel, des incursions du groupe Wagner en Mauritanie ont déjà eu lieu par le passé, mais cette fois, selon les informations de RFI, les arrestations auraient eu lieu côté malien. Le récit de David Baché.
De nombreuses sources locales s'indignent d'une nouvelle incursion de Wagner et de l'armée malienne en Mauritanie et rapporte des mouvements de panique dans les villages de la zone. Mais plusieurs sources militaires mauritaniennes assurent que l'opération s'est bien déroulée côté malien et qu'il n'y a donc pas eu d'incursion. Toutes ces sources confirment qu'au moins une quinzaine d'hommes ont été emmenés par les Russes du groupe Wagner, une majorité de Mauritaniens et des Maliens. Les témoignages recueillis par RFI font également état de tirs. 2 jeunes hommes auraient été blessés avant d'être embarqués, d'au moins 4 voitures emportées et 2 boutiques saccagées par les hommes de Wagner. Ni l'armée malienne, ni les sources officielles mauritaniennes sollicitées par RFI n'ont souhaité commenter à ce stade. Le village de Lardaf, près de Fassala, se trouve sur une zone frontalière floue que Maliens et Mauritaniens traversent quotidiennement sans même en avoir conscience, expliquent certaines sources, qui ajoutent que des Mauritaniens sont même installés sur le sol malien. Ces dernières années, plusieurs cas d'incursions avérées de Wagner et de soldats maliens en Mauritanie ont suscité des tensions entre les deux pays, qui ont cependant conservé des relations stables.
Récit signé David Baché, puis direction Madagascar, où 11,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs futurs maires et conseillers municipaux. Les bureaux de vote ont fermé. Pour l'heure, aucune tendance ne ressort encore clairement du vote, si ce n'est une mobilisation nationale plutôt timide. 24,4% de taux de participation à midi, selon SAFID, la plus grande mission d'observation électorale du pays. Une légère baisse par rapport aux élections de 2019 à la même heure. À Antananarivo, la capitale par exemple, le calme relatif de la matinée a été rompu au fil de la journée par des suspicions et tentatives de fraude. Le récit de la journée avec Pauline Letruquier.
À quelques minutes de la clôture des urnes dans le quartier populaire de Manardsou, l'ambiance contraste avec les incidents survenus ça et là, ailleurs dans la ville. Cette présidente de bureau de vote se félicite au contraire d'un processus exemplaire.
Il faut prouver à toutes les populations que ça se passe comme ça. À mon bureau de vote, pas de fraude, pas de discussion, même conflit, il n'y a pas.
À quelques ruelles de là, à Ondavamambe, l'ambiance est au contraire électrique dans la cour de ce centre. 7 individus sont fouillés puis arrêtés. Munis de cartes électorales irrégulières, ils sont soupçonnés d'avoir été, je cite, missionnés pour gonfler le score de la candidate du pouvoir. Un climat qui ne décourage pas pour autant cet électeur.
À mon avis, il y a toujours des fraudes à chaque élection. Ça, je suis bien conscient. Mais si on ne participe pas, on ne peut pas dénoncer. Je reviendrai plus tard pour le décompte. Je suis là pour contrôler.
Ce soir, la vraie inconnue du scrutin reste le taux de participation qui s'annonce timide à l'échelle de ce seul centre de vote, explique cet autre responsable.
Le taux de participation, ça c'est un peu moyen, quoi, on va dire. Parce que là, il est 17h. On est dans les 35%.
Dans la capitale, les opérations de dépouillement se déroulent dans le même climat de suspicion que la journée de vote. SAFID, la plus grande mission d'observation électorale sur l'île, pointe des cas de bulletins précochés et de bourrage d'urnes. Pauline Troquier, Antananarivo, RFI.
Il est 20h et bientôt 40 minutes ici à Paris. L'info continue sur Radio France Internationale avec le grand reportage.